France Musique. C'est l'été sur France Musique. Les uchronies musicales de Laurent Villarem.
Et si Wagner n'avait pas rencontré Louis II ? Lucerne, 1859. Richard Wagner est furieux. Le projet de sa vie, un ring en quatre parties, ne trouve pas un lieu à la hauteur de ses ambitions. Et le compositeur fulmine. Il se promène autour du lac Suisse. Il vient de finir le deuxième acte de Tristan et Isolde par amour pour Mathilde Wezendonck. La vie de Wagner est agitée. Les créanciers le suivent. Il fuit de ville en ville en raison de ses dettes. Et toujours, il a ce rêve d'un théâtre capable d'accueillir son grand œuvre lors d'un festival éphémère. Un théâtre en bois qu'on brûlerait après la représentation. Mais évidemment, personne ne voudrait d'un projet aussi fou. Désespéré, le compositeur songe à abandonner la composition. Et pourtant, Wagner, encore tellement de musique dans sa tête. Notamment une musique où Siegfried retrouve Brunhilde sur un rocher. Yannick Millon, vous êtes journaliste, les fidèles de France Musique vous connaissent bien dans la tribune des critiques de disques et vous venez de faire un dossier spécial Bayreuth dans le Classica de juillet-août. Et vous allez régulièrement au festival de Bayreuth depuis combien de temps ?
Depuis bientôt 20 ans, l'édition 2002 très exactement.
Ah, vous êtes un wagnérien alors ?
Oui.
Alors, est-ce vrai donc que la musique que nous avons entendue, ce réveil de Brunhilde dans Siegfried, a failli ne jamais voir le jour et que le ring lui-même a failli ne jamais être créé ?
Alors d'une certaine manière, oui. À la fin des années 1850, Wagner, c'est un compositeur errant, on pourrait presque dire bovariste d'une certaine manière, qui pense à chaque endroit où il se trouve que l'herbe est plus verte ailleurs, qui est recherché pour avoir participé à la révolution de 1849, qui laisse des dettes partout où il passe, et fatalement qui est poursuivi par des créanciers chaque année plus nombreux. Certains biographes pensent même que Wagner a songé au suicide après le refus de l'Opéra de Vienne de monter Tristan. Et donc là, on se trouve au printemps 1864. Wagner est à Stuttgart, en proie à la désespérance. Ses projets sont complètement à l'arrêt. Et c'est à ce moment précis que le monarque de 18 ans qui vient de s'installer sur le trône de Bavière lui fait parvenir une convocation au palais de la résidence de Munich.
Donc c'est vraiment grâce à Louis II que Wagner a pu monter le ring.
Alors oui, Wagner rencontre Louis II de Bavière le 4 mai 1864, c'est-à-dire moins de 2 mois après l'accession au trône de Louis II. Et Louis II, Louis de Wittelsbach, il faut savoir que c'est un jeune homme d'une grande beauté, hypersensible, qui aime se réfugier dans des mondes imaginaires et qui a eu la révélation de Wagner à l'âge de 15 ans pendant une représentation de Lohengrin. L'anecdote est bien connue que l'adolescent s'est fait construire dans le parc du château de Linderhof une grotte artificielle où il aime monter, habillé en tenue de chevalier du Graal, sur une nacelle tractée par un cygne qui glisse sur les eaux d'un lac artificiel souterrain, au son de la musique de Wagner.
Je crois qu'on voit ça dans le film de Visconti, non ?
Exactement, oui, oui.
Alors nous allons écouter maintenant cette fameuse scène. Fernemland de Lohengrin de Wagner par Wolfgang Wingassen. Yannick Millon, quel a été l'apport de Louis II dans la vie de Wagner ?
Louis II lui a avant tout donné la liberté de se consacrer intégralement à la composition par le biais de subsides importants sous forme d'une prise en charge intégrale de ses dettes, d'une rente annuelle équivalente au double du salaire d'un proviseur de lycée et de divers coups de pouce parfois conséquents.
Et vous avez regardé combien ça faisait de nos jours, non, je crois ?
Pas exactement, mais c'est des sommes qui sont conséquentes, puisque quand je parle de la rente annuelle qui est le double d'un salaire de proviseur de lycée, c'est 10 fois moins que ce que le roi lui donnera, ne serait-ce que pour achever le Ring, juste achever la composition. Donc c'est des sommes assez colossales quand même.
Donc il lui a vraiment facilité la vie.
Absolument, d'autant qu'il faut savoir que le confort matériel chez Wagner, c'était presque un préalable à l'activité créatrice. Et avant Louis II, personne ne voulait créer Tristan, Les maîtres chanteurs étaient inachevés, mais surtout, c'est le roi qui a non seulement offert à Wagner de terminer l'œuvre majeure de sa vie, le Ring, dont la composition était en jachère depuis presque 5 ans, mais aussi de la créer à la scène. Et on imagine mal un directeur de salle de l'époque prendre le risque de programmer 15 heures de musique réparties sur 4 soirées. Initialement, Louis II voulait même faire ériger en plein Munich, sur les hauteurs du Gasteig, un théâtre spécialement dédié à la tétralogie.
Ouais.
Et si on pousse la logique...
Et c'était un quel genre de théâtre à l'origine ?
Alors, le rêve initial de Wagner, c'était même d'imaginer un théâtre tout en bois qui pourrait être brûlé à l'issue de la représentation. Mais l'idée de Louis II, c'était plutôt un théâtre en dur et un théâtre, évidemment, sur le haut du Gasteig dans Munich, un théâtre qui domine, évidemment.
Yannick, si on continue notre uchronie, si on imagine qu'il n'a pas rencontré Louis II, est-ce qu'on retourne sur le lac de Zurich, mais cette fois 20 ans plus tard ? Et si Wagner n'avait pas rencontré Louis II ? Zurich, 1875. Wagner est toujours furieux. Il est aigri, paranoïaque. Certes, Cosima, sa nouvelle compagne, le soutient de façon inconditionnelle et elle enrage que le monde ne considère pas son mari comme le génie qu'il est. Mais Wagner n'a toujours pas trouvé de lieu pour représenter ses opéras. Il n'a toujours pas le droit de revenir en Allemagne en raison de ses dettes et des différents scandales de sa vie amoureuse. C'est triste à dire, mais Wagner reste l'auteur d'un chef-d'œuvre, Tristan et Isolde, qu'on finit petit à petit par oublier. Plus personne ne veut de ce compositeur mégalomane. Là et fatigué, Wagner meurt prématurément. Il n'y aura pas de Parsifal. Thank you. musique de transformation de Parsifal de Wagner. Yannick Billon, un monde sans l'opéra Parsifal, est-ce que c'est possible ?
Alors tout est toujours possible, mais évidemment ça ne serait certainement pas souhaitable. Même si Wagner aurait probablement écrit Parsifal, qui était en germe dans son esprit depuis 1845, la mythologie wagnérienne doit beaucoup à la création de Parsifal à Bayreuth. Et il ne faut pas oublier que juste après la première série de représentations de juillet-août 1882, Wagner part avec femmes, enfants et collaborateurs passer l'hiver sur le canal Grande de la Sérénissime jusqu'au fatidique 13 février 1883 où il meurt subitement dans le salon du Palazzo Vendramine.
Et ça vous parle, je crois, Yannick, de mourir à Venise comme ça.
Bah, honnêtement, quel destin plus glorieux pour un artiste que de mourir à Venise, surtout un artiste un peu mégalo comme Wagner.
Mais est-ce que s'il n'avait pas rencontré Louis II, s'il n'avait pas pu faire ses opéras, est-ce qu'il aurait pu composer autre chose ? Peut-être de la musique de chambre ? Parce que c'était plus facile à monter. Ça ressemblerait à quoi, une œuvre de musique de chambre de Wagner ?
Eh bien, ça ressemblerait à Siegfried Idyll, tout simplement.
Ah, mais c'est mais vraiment avec moins d'instruments encore, ce serait quoi ?
Avec moins d'instruments encore.
Au piano, du trio.
Ça pourrait être plus facilement peut-être du quatuor ou du quintet, mais peut-être avec piano quand même.
Alors, qu'est-ce que vous pensez ? On a choisi comme exemple la lugubre gondole numéro 1 de Liszt, qui est d'ailleurs en hommage à Wagner. Est-ce que ça pourrait être une œuvre de Wagner ?
C'est assez difficile à dire, puisque c'est une œuvre complètement ascétique qui est typique du dernier Liszt. Et Wagner n'avait quand même jamais, même dans Parsifal, qui est son ouvrage le plus décanté, on va dire, n'avait quand même pas cette économie de moyens, et notamment cette économie de longueur.
Néanmoins, ça reste un bel hommage pour justement la mort à Venise de Wagner. La lugubre gondole par Alfred Brendel.
Thank you.
La lugubre gondole numéro 1 de Liszt par Alfred Brendel.
C'est l'été sur France Musique. Les uchronies musicales de Laurent Villarème.
Yannick, nous arrivons au fameux point Godwin de l'émission. Je sais que vous l'attendiez.
Oh, il y a toujours un point Godwin avec Wagner, oui.
Si Wagner n'avait pas écrit Parsifal et si le Ring n'avait pas été représenté, qu'est-ce que cela aurait changé dans la culture allemande ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que la culture germanique aurait été amputée de deux chefs-d'œuvre qui ont profondément modifié le rapport du public et des compositeurs au genre opéra. Mais on touche aussi à une corde sensible, parce que l'attirail idéologique regroupé après la mort de Wagner auprès de Cosima à Bayreuth, le pan-germanisme et l'antisémitisme rampant chez une partie du public qui fréquente le festival au tournant du 19e et du 20e siècle, aurait sans doute été plus diffus dans le monde musical et moins concentré en Franconie en tout cas.
Et en France, parce qu'il y a une grande vague de wagnerisme en France, est-ce que cela aurait changé quelque chose ?
Alors sans doute pas grand-chose en termes de public. Le wagnerisme avait déjà essaimé avant le scandale de Tannhäuser à l'Opéra de Paris en 1861. En revanche, l'impact de l'influence wagnérienne dans les opéras des compositeurs français, on peut faire toute une liste de Chausson à Dindy, en passant par Lalo, Magnard, Reyer, Ducas et même Debussy d'une certaine manière, cet impact aurait été moindre. Tous, à des degrés divers évidemment, ont été marqués par le dernier Wagner.
En tout cas, on peut dire que l'histoire musicale n'aurait sans doute pas été changée, mais en revanche, on pourrait dire que Wagner ne serait pas devenu le porte-étendard du nationalisme allemand, peut-être. Et ça aurait changé quoi, d'ailleurs ?
Le nationalisme allemand aurait trouvé un autre chemin.
Donc finalement, ça n'aurait peut-être rien changé ?
Peut-être.
Ou peut-être oui, peut-être, qui sait. Alors nous écoutons la fin grandiose de Parsifal, dirigée par Hans Knapperbusch. La fin de Parsifal de Richard Wagner, dans la version discographique dirigée par Hans Knapperbusch. Merci beaucoup Yannick Millon. Je rappelle que vous êtes le co-auteur du dossier spécial Bayreuth dans le Classica de juillet-août. C'est un vaste dossier consacré à Wagner. Merci beaucoup Yannick Millon.
Merci Laurent.
Les Uchronies musicales, collaboration Pauline Boisaubert, prise de son et mixage Philippe Thibault, une émission réalisée par l'excellente Céline Parfenoff. Cette série d'été est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. De mon côté, je vous retrouve dès dimanche prochain dans le Carrefour de la création, consacré à la musique contemporaine. Mais tout de suite, nous retrouvons le dernier épisode d'Un été avec Louis Armstrong, avec Florian Royer.
À réécouter sur francemusique.fr.